Nous abordons maintenant l'offrande dans la liturgie primitive et pour plusieurs réflexions. Le Seigneur, écrit Jungmann, a institué le mystère eucharistique sous les symboles du pain et du vin. C'est le pain tel qu'il l'a trouvé sur la table de la scène et la coupe placée devant lui qu'il prend et convertit en don céleste. L'époque chrétienne primitive ne nous livre guère d'informations sur le rituel de l'offrande du fait que le secret de l'arcane occulte la matière liturgique et compte tenu du lien qui unit l'Eucharistie et Agape en ces temps lourds. Au IIe siècle, saint Justin n'en dira pas plus dans son apologie sur les chrétiens. On apporte à celui qui préside, c'est le prêtre, en grec prestos, le sacerdoce, du pain, du vin et de l'eau. C'est sacerdoce. Du pain, du vin et de l'eau. C'est ainsi dire que pour les saints mystères, l'Église primitive s'en tient strictement au respect des écritures néo-testamentaires sur la composition de la matière sacramentelle. On sait néanmoins par Tertullien, début IIIe siècle, que les fidèles apportaient les dons nécessaires à la liturgie. Cyprien, le célèbre évêque de Carthage, insiste même sur ce point, par ailleurs tout à fait explicable, en raison de l'assistance que les fidèles apportaient couramment à la vie de l'Église et au secours des plus pauvres. C'est créé au niveau des contributions fournies un lien plus étroit avec la célébration des mystères. L'usage est général au IVe siècle, mais l'intérêt est surtout de déterminer quelle a été la pratique employée par les fidèles pour accomplir leurs devoirs et, incidemment, à quelles conséquences sur le plan liturgique ces usages ont conduit. Deux tendances se dessinent. La première est de type oriental. À Antioche et à Byzance, les offrandes sont déposées par les fidèles dans une dépendance de l'Église placée sous la responsabilité des diacres, ce qu'on appelle le diaconicon. Le clergé met ensuite à part les dons destinés à la célébration de la messe et qui seront portés à l'autel. Cette pratique est donc à la racine d'une évolution liturgique postérieure dont la solennité sera rehaussée par une procession grandiose. Dans la liturgie latine, elle correspond à la future grande entrée, précédée de porte-flambeaux et enveloppée des fumées de l'encens. Diacre et prêtre portent avec ostension de la prothèse au sanctuaire en franchissant la nef, l'hostie respectueusement voilée et le calice. C'est sensiblement le même rituel qui est adopté par les Coptes au cours de l'avant-messe, mais avec cette particularité d'un symbolisme liturgique accentué qu'une procession circulaire se développe autour de l'autel qui est de forme réglementairement carrée. Précédé du turiféraire et des cirroféraires, le diacre et le célébrant portent les offrandes recouvertes d'un voile. Ce courant liturgique s'est exporté en Occident par les liturgies gallicanes et ambrosiennes, et il est probable que la première liturgie romaine a aussi connu cet usage. Néanmoins, l'Ordo Romanus Primus se fait l'écho d'une autre pratique instituée entre le VIe et VIIe siècle et qui inverse le rituel précité. Le pontife romain quitte la cathèdre et se rend au transept pour recevoir les pains donnés par les nobles en respectant leur élévation hiérarchique. Ces pains sont remis à un sous-diacre qui les dépose dans un grand linge tenu par des acolytes. Quant à l'archidiacre qui accompagne le pontife, sa fonction est de recueillir le vin contenu dans des flacons, ce qu'on appelle en latin des amulets, et de le reverser dans un grand calice tenu par un sous-diacre, lequel le transfère dans un vase plus grand, le Scyphus. Puis le pape passe devant la confession et reçoit les offrandes des hauts fonctionnaires romains et des dames de la noblesse, en observant là encore leur titre nobiliaire dans la hiérarchie. Bien entendu, tout l'entourage du pontife contribue à la réception des offrandes. Un évêque remplace le pontife quand il rejoint sa cathèdre pour se laver les mains. L'archidiacre fait de même pendant qu'un sous-diacre recueille le vase d'eau que lui transmet le responsable de la Schola Cantorum. Enfin, le pontife reçoit les dons du clergé dans le sanctuaire et dépose sur l'autel son offrande personnelle, c'est-à-dire deux pains, à la droite de laquelle l'archidiacre place le calice. L'ordo Romanus Primus ajoute en conclusion cette prescription, s'inclinant légèrement devant l'autel, le pontife regarde la scola et lui fait signe d'arrêter la psalmodie. L'observation qui se dégage immédiatement de ces dispositions, depuis lequel le célébrant a invité l'assistance à la prière en commençant le fertoire, Orimus, est l'absence totale de rites ou de prières liturgiques, et la seule oraison qui constitue le terme de cette phase de la messe n'est en fait que l'oratio super oblata, c'est-à-dire la secrète. Un indice bien mince, il est vrai, corrige cette étonnante impression. Il nous est fourni par l'Ordo Romanus XV, qui date de la fin du 8e siècle. Novissime duas oblationes suas propria saccipiant, recevant de nouveau deux oblations qui lui sont propres, élevant les yeux et les mains vers le ciel, il prie Dieu secrètement et complétant sa prière, il les pose sur l'autel. En d'autres termes, le pontife élève son regard et ses offrandes personnelles vers le ciel, prie Dieu secrètement et son oraison terminée, dépose ses dons sur l'autel. L'intervention postérieure de l'archidiacre déposant le calice à la droite de l'offrande pontificale se comprend mieux. C'est en effet sur l'ensemble de l'offrande que le célébrant récite l'oratio super oblata. L'antique liturgie romaine éprise de concision se suffisait donc de gestes extérieurs et à la rigueur de prières privées. Son transfert dans un milieu aussi différent par ses conceptions religieuses qu'un empire carolingien sera évidemment source de difficultés et d'adaptations sans nombre.